Le Mishkan, c'est au cœur des parachas qui vont de Terouma jusqu'à la fin du livre de Shemot, au moins. Eh bien, un Midrash, Midrash Shmuel, explique que les œuvres fondées sur la Torah, sur le service divin et sur la bonté sont inébranlables, car elles reposent sur des fondations spirituelles solides. Et justement, le Mishkan, c'est précisément l'union de ces trois piliers, puisque la Torah était à l'intérieur du Mishkan, même dans l'Arche d'Alliance, il y avait le service divin des Kohanim et la bonté, car il y a eu des dons de tout le peuple pour édifier le Mishkan. Donc, la conclusion logique, c'est que le Mishkan ne peut pas être détruit. Or, on peut se dire que le temple de Jérusalem, le Beth Amikdash, a succédé au Mishkan, donc il est devenu le Mishkan. Et puis le temple de Jérusalem lui-même, le premier puis le deuxième, ont été détruits. En attendant la construction du troisième, il n'y a pas de temple et qui est devenu le Mishkan, là encore. En fait, le Mishkan, c'est l'expression directe de la sainteté de Moshe Rabbeinu. Et on nous dit, nos sages nous disent, que ce que façonne un homme qui est dit homme de Dieu, ce qui est façonné par un tel être, par Moshe, porte en lui une dimension d'éternité. Ainsi, le Mishkan ne disparaît pas, ne peut pas disparaître. En fait, le Mishkan, lorsque le temple de Jérusalem a été construit par Shlomo HaMelech, par Salomon, eh bien, le Mishkan est passé dans le temple et il a vécu à l'intérieur de lui. Les sages ont décrit ce processus. Comment le Mishkan se retrouve-t-il dans le temple de Shlomo HaMelech? Bien, d'abord, tous les ustensiles du Mishkan, eh bien, ils ont été transférés dans le temple. Et le texte, dans Melachim, le dit explicitement, que les Kohanim, les Lévi'im ont apporté dans le Beth Amikdash tout ce qui appartenait au Mishkan, qui a été physiquement intégré dans le temple. L'Arche d'Alliance, la Ménorah, la table des pains, l'autel d'or, les ustensiles sacrés, les vêtements sacerdotaux et tous les divers instruments qu'il y avait. De plus, le Mishkan lui-même, c'est-à-dire les tentures, les panneaux de bois, les barres de transport, les cordages, les pots, tout cela a été soigneusement plié et déposé dans les chambres souterraines du temple. C'est ce que l'on apprend notamment dans un Midrash et dans le Talmud. Donc le Mishkan n'a pas été détruit, il a été absorbé dans le temple. L'arche du Mishkan, elle est même devenue le cœur du temple. C'est l'arche d'alliance qui a été placée dans le Kodesh à Kodashim. C'est donc l'arche du Mishkan qui a donné au temple sa sainteté ultime. De plus, le Beth Amikdash lui-même a été construit sur le modèle du Mishkan. Et le Midrash nous dit que Shlomo HaMelech a construit le temple, Halpi, etc. Bon, selon le modèle du Mishkan, proportions, structure, zone sacrée, ustensiles, tout reprend le schéma du Mishkan, mais en plus grand. De plus, le Mishkan reste actif à l'intérieur du temple, puisque sa lumière spirituelle vient du Mishkan, sa pureté de sa construction était effective, la Shekhina y résidait. Tout cela, lumière, pureté, Shekhina, irradiait à l'intérieur du temple, alors qu'il venait directement du Mishkan. En quelque sorte, le Beth Amikdash, c'est comme un corps, mais l'âme en est le Mishkan lui-même. Le passage du Mishkan mobile au temple fixe, eh bien, c'est pas seulement un élément historique lié au passage de l'époque des juges à l'époque de la royauté, à peu près. Le Mishkan était mobile, il était souple. Le Mikdash, c'est-à-dire le Beth Amikdash, il était fixe, il était monumental. C'est le passage de l'un à l'autre, c'est un mouvement spirituel, un mouvement psychologique, un mouvement mystique. Et on peut lire ça avec la loupe qui est celle de la boîte à outils de la Torah orale, et cela nous permet de comprendre les quatre niveaux de compréhension de ce sujet, le passage du Mishkan au Mikdash, le passage du mobile au fixe, du souple et transportable au monumental. Le Pshat nous dit que le Mishkan accompagne, pardon, oui, c'est bien ça, le Mishkan accompagne Israël dans le désert. Il est transportable, il est remonté étape après étape, et au contraire, le temple est construit à Jérusalem, lieu choisi par Hachem, il est fixe, permanent et monumental. Bon. Donc, on a la transition, le Pshat nous explique que l'on a la transition d'un peuple nomade à un peuple installé sur sa terre. Prenons le deuxième niveau de compréhension, le remèze. C'est l'allusion. Nos sages voient dans ce passage une allusion à deux formes différentes de relation avec Hachem. Le Mishkan, c'est la proximité, j'allais dire personnelle, intime. Le Mishkan suit Israël partout. Il symbolise une relation personnelle, souple. Le temple, au contraire, c'est la stabilité nationale. C'est une relation institutionnelle, publique, collective. Et le Remez nous dit que la vie spirituelle a besoin des deux dimensions, la dimension publique et la dimension intérieure et la dimension extérieure. Quant au niveau de l'enseignement des sages, au niveau du drash, eh bien, on a des explications des midrashim. Le Mishkan représente l'amour pur. Il est construit par des dons volontaires de chacun. C'est l'expression du cœur d'Israël. Le temple, au contraire, eh bien, il représente la royauté, la loi. Il a été construit sur l'initiative d'un roi. Il symbolise l'ordre, la puissance, la souveraineté. Donc, on apprend que le Mishkan est indestructible parce qu'il vient du cœur et qu'au contraire, le temple est vulnérable car il va dépendre du comportement national. On a là le passage, et c'est le Drash qui nous l'enseigne, le passage de l'amour spontané à la responsabilité collective. Enfin, dimension du Sod, l'aspect mystique de la chose que nous transmettent les Mekoubalim, bien, le Mishkan, c'est la Sefira Malchut en mouvement. La présence divine se déplace avec Israël. Elle est immanente, proche, enveloppante en quelque sorte. Au contraire, le temple, le Mikdash, il correspond à Tiferet dans le monde. Il y a une lumière divine qui se condense dans un lieu unique, qui devient rayonnante, structurée, on peut dire harmonisée. Et en définitive, le Mishkan représente la Shekhina en exil, marchant avec Israël, accompagnant Israël, ne quittant pas Israël. Le temple, au contraire, c'est la Shekhina établie en résidence dans la plénitude. Le passage du mobile vers le fixe, c'est le passage d'une présence divine en mouvement à une présence divine en pleine révélation. Ainsi, passer du Mikdash, du tabernacle du désert. Non, je reprends. Passer du Mishkan au temple, ce n'est pas une rupture, c'est une élévation. Le Mishkan, c'est le cœur. Le Mikdash, c'est au contraire le corps. Le Mishkan, c'est la proximité. Le Mikdash, c'est la révélation, c'est l'amour structuré en quelque sorte. Et c'est pourquoi le Mishkan demeure à l'intérieur du temple. Le fixe ne peut exister sans mobile. Le monumental ne peut vivre sans l'intime. Le public ne peut tenir sans le cœur. On a donc le temple qui arrive, qui est édifié à Jérusalem. Après toutes les étapes du Mishkan dans le désert, puis dans les différentes localités que l'on a expliquées dans le cours précédent, le temple de Jérusalem va réunir enfin, dirais-je, parce qu'on sait que dans les dernières étapes, l'Arche d'Alliance n'était plus à l'intérieur du Mishkan. Eh bien, là, à Jérusalem, le Beth Amigdash va réunir l'arche, l'autel, la menorah, la table. C'est la première fois depuis Shiloh, depuis le Mishkan de Shiloh, que tout est à nouveau réuni. À Jérusalem, le Beth Amigdash est dit Beth Aholamim, demeure éternelle, car le mont Moria a été sanctifié pour être l'emplacement définitif du Beth Amigdash. Comme l'a exprimé David Ameller dans les Tehillim, il a dit Zot menuhati raderad. Voici mon repos à jamais. Et il a expliqué aussi j'habiterai là car je me suis épris de ce lieu. C'est Hachem qui parle, bien sûr. Avec Jérusalem, eh bien, le sacrifice. Pour la question des corbanotes, on a vu qu'il existait des cas, notamment à Gilgal, où à Gilgal, il était possible d'offrir des sacrifices ailleurs que dans le Mishkan de Gilgal. Et à Jérusalem, bien entendu, ce n'est pas possible. On ne peut plus jamais offrir de sacrifices, de corbanotes, ailleurs qu'à Jérusalem. Cependant, il y a eu une dérogation. C'est le corban d'Éliaou Hanavi sur le mont Carmel lors du défi qu'il a lancé aux prêtres idolâtres. C'était certes une infraction à la règle, mais tolérée à titre exceptionnel, que l'on peut comparer, cette tolérance, on peut la comparer à la transgression du Shabbat pour sauver une vie. Ben, on sait très bien que si quelqu'un a subitement une crise qui met sa vie en danger, on peut très bien téléphoner au secours pour qu'ils arrivent, y compris Shabbat. Téléphoner ce ne serait pas une infraction, exceptionnellement. Et bien entendu, l'appel à d'autres pour travailler Shabbat, venir sauver la personne qui est en danger de mort, ce n'est pas du tout une infraction, en fait. Mais dans quelque chose de comparable, le corban du prophète Éliaou sur le mont Carmel, il avait lancé un défi aux prêtres idolâtres. Cette infraction, en quelque sorte, était tolérée car il s'agissait de sauver du paganisme tout le royaume d'Israël. Et cela, à l'époque du couple royal impie de Ahab et de Isabelle, qui étaient partisans de l'idolâtrie et qui poursuivait ceux qui n'étaient pas idolâtres. Donc un royaume entier, tout le royaume du nord, après la division du royaume de Shlomo, après la division, eh bien, on se retrouve avec un royaume du nord tournant vers l'idolâtrie. Il fallait sauver cela comme il faut sauver quelqu'un qui est sur le point de mourir, d'où l'exception du sacrifice d'Éliaou Hanavi. Aujourd'hui, le service du temple est remplacé par les offices à la synagogue, par la prière, par la lecture du Sefer Torah. Et le Mishkan, il existe toujours physiquement, mais il est caché, nous disent nos sages. Il existe aussi, en dehors du physique, spirituellement, dans le cœur de chaque juif. Il représente aussi la relation essentielle, non institutionnel avec Hachem. Il appartient à un niveau de lumière qui ne peut être éteint. Il est l'œuvre de Moshe, donc il est éternel. En un mot, le Mishkan n'a jamais disparu, il a changé de forme où il est actuellement caché. La position halakhique et midrashique à ce sujet des maîtres contemporains s'appuie sur le Talmud pour dire que l'arche, l'étable, les ustensiles du Mishkan en général ont été cachés par le roi Josias avant la destruction du temple. Donc le Mishkan n'a pas été détruit, il est préservé mais invisible puisque bien caché. Et nos maîtres enseignent que ces objets réapparaîtront à l'époque de la Géoula, bientôt et de nos jours. Deuxième point de vue, le Mishkan est indestructible car il est dans le cœur d'Israël. C'est la position chassidique, la position du Moussar. Les maîtres expliquent que le Mishkan, c'est avant tout une structure spirituelle intérieure, le lieu de rencontre de l'homme et de Dieu, puisque le verset nous dit, ils me feront un sanctuaire et je résiderai en eux, Betocham. Les sages modernes insistent que le Mishkan, eh bien, on peut considérer que ce n'est pas seulement un bâtiment, ça a été un bâtiment qui a existé, mais c'est d'abord et avant tout un état de l'âme. Et ça, rien ne peut détruire cela. Donc, le Mishkan intérieur est indestructible, il est intact. À côté de cela, on peut considérer que c'est l'œuvre de Moshe, et donc les Mekoubalim expliquent que l'œuvre de Moshe ne peut être détruite, et donc que le temple du roi Salomon, le Beth Amikdash, lui pouvait être détruit parce que c'était l'œuvre d'un homme en définitive, alors que le Mishkan était l'œuvre de Moshe, homme de Dieu, et ce qui est façonné par Moshe prend une dimension d'éternité. À ce propos, on a des parachas très techniques, depuis Teruma jusqu'à la fin du livre de Shemot. Et ces pages du constructeur, du sanctuaire sont moins faciles à lire que celles du livre Béréchit ou du début du livre de Shemot. Et pourtant, ces détails techniques, moins attachants pour certains, ben, sont très riches. Ainsi, prenons quelque chose et nous terminons sur cela. Il est écrit. Vezot haTorah asher tikrachu me'etam zahav v'chesef u'nechoshet. Et voici l'offrande que vous recevrez d'eux, or, argent, cuivre et cuivre. Au moment précis où le texte parle de Mishkan, nous voyons les lettres des mots zahav, kesef et nechoshet. Ils font allusion à la valeur de la lecture du Sefer Torah. En effet, l'office, l'étude de la Torah, la lecture de la Torah, depuis la destruction du Beth Amikdash, se substitue aux offrandes. Et Ben Ishraï remarque, à propos du respect des synagogues, il faut leur accorder déférence et s'efforcer d'y ressentir crainte et respect. Dans la Torah, tout véhicule du sens, et nous devons donc nous efforcer de considérer la nouveauté que nous lisons, même si ce sont des textes que l'on connaît déjà. Un livre rempli de la sagesse divine et porteur d'enseignements infinis, attendant jour après jour d'être révélé, découvert. Et un enseignement du Hatam Sofer éclaire les mots Zahav, Kesef, Brochette. Cuivre, le or, argent, cuivre. Or, l'or, Zahav, s'écrit Zayin He Bet. Cela fait allusion à toutes les occasions de lire la Torah en public dans la semaine. Zayin 7, Shabbat, Hé 5, jeudi, cinquième jour de la semaine où on sort la Torah. Bet 2, lundi, deuxième jour de la semaine où on lit la Torah le matin. Kesef, Raf, Sama, Pe. Eh bien, on a là allusion aux autres occasions de lire la Torah en public. Raf pour Kippour, Samar pour Sukkot, Pe pour Pessah et Pourim. Nehoshet, cuivre, Nun, Het, Shintav. Nun pour Nerot, lumière de Hanouka, Het pour Chodesh, Rosh Chodesh, Rosh Hashanah, et Shin pour Shavuot, mais aussi Shmini Hagaratzet, enfin Tav pour, je vous laisse deviner, Tav, Taanit, où on lit également la Torah. Ainsi, on a une allusion à la lecture du Sefer Torah dans les mots de ces trois métaux qui étaient utilisés pour la construction du Mishkan et donc qui étaient ensuite présents dans le Beth Amikdash. Et on voit que, en l'absence de Beth Amikdash actuellement, il y a quelque chose qui nous aide à le remplacer, en quelque sorte, c'est l'étude de la Torah. Je vous remercie. Au revoir.